Les fêtes juives. Le calendrier juif est à la fois lunaire et solaire. Lunaire car l'année comprend 12 mois, de 29 à 30 jours, et solaire car il faut que les fêtes tombent dans les saisons qui leur correspondent. D'où la nécessité d'ajouter un 13e mois, qui revient 3 fois environ en 19 ans. Voici les principales fêtes juives. Le Shabbat, qui est le moment fort du calendrier juif, est d'après la Bible le signe de l'alliance entre Dieu et la création. Lors de ce jour consacré à la prière, tout travail est proscrit. Pessah est la fête de pèlerinage qui symbolise la sortie d'Égypte et l'accès à la liberté. Pendant une semaine, le croyant doit consommer du pain non levé. Le Seder, repas liturgique, est composé de mets symboliques et se termine par des cantiques, la lecture de la Haggadah qui est l'histoire des Hébreux et du séjour forcé en Égypte, et le récit de la sortie d'Égypte. Shavuot est célébré 7 semaines après Pessah et consacre la promulgation du Décalogue, qui sont les 10 commandements. Autrefois, fruits et légumes étaient offerts au temple de Jérusalem. Aujourd'hui, les maisons et les synagogues sont décorées de fleurs. Soukhot, ou la fête des cabanes, rappelle que les Hébreux bénéficièrent constamment de la protection divine quand ils traversèrent le désert en quittant l'Égypte. Yom Kippour et Rosh Hashanah est l'anniversaire de la création du monde et de l'homme et est commémoré par ces 2 jours de fête. Le jour du jugement, ou Rosh Hashanah, est consacré à la méditation et au repentir. La synagogue est alors entièrement décorée de blanc. Le jour du pardon, ou Yom Kippour, est un jour de jeûne absolu, de prière et de recueillement où l'on demande à Dieu l'expiation de ses péchés. Hanouka est la fête des Lumières qui commémore la lutte des résistants juifs après la profanation du Temple de Jérusalem au XIe siècle avant Jésus-Christ. Chaque foyer allume pendant 8 jours un chandelier à 7 branches pour perpétuer la victoire du judaïsme sur le paganisme.
Un peu de technique. Les mots du judaïsme. Bar mitzvah signifie littéralement « soumis à la loi religieuse ». Dès sa 12e année, garçon ou fille est considéré comme majeur, religieusement parlant, pour pratiquer. Kasher, en hébreu, kasher, signifie convenable. Ce terme désigne un animal propre à la consommation, car il a été tué rituellement. Diaspora désigne la dispersion des Juifs dans le monde entier. Il faut toutefois différencier les Ashkénazes des Séfarades, qui sont issus du bassin méditerranéen. Esséniens. Ce sont les contestataires. Ils vivaient dans le désert et réclamaient l'abandon de tous les biens, y compris le savoir et de toutes les facilités de l'existence. Hassidim, qui signifie « les pieux », est un mouvement judaïque d'Europe de l'Est, insistant particulièrement sur la communion joyeuse avec Dieu, en particulier par le chant et la danse. Hébreu. Le mot vient d'Héber, descendant de Sem, l'un des 3 fils de Noé, mais aussi d'Abirou. Les errants. On peut également évoquer la racine araméenne Uri, qui signifie de l'autre côté. Abraham, le premier des Hébreux, était effectivement passé de l'autre côté du désert arabo-syrien. Israël est un terme qui désigne à la fois le patriarche Jacob, le peuple auquel donnèrent naissance ses 12 fils, et les 10 tribus qui formèrent le royaume d'Israël. Dès la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, le terme désigne l'ensemble de la communauté ethnico-religieuse juive. Juif ou Yehudi, qui signifie « celui qui descend de la tribu de Juda ». Après la destruction de Samarie, la capitale du royaume d'Israël, au nord, en 722 avant Jésus-Christ, le mot désigne l'habitant du royaume de Juda, au sud. Kabbal, qui vient de Kabbalah, signifiant « tradition ». C'est la tradition philosophique et ésotérique juive. Pharisiens, ou perushim, qui signifie « les séparés ». Les pharisiens sont disposés à accepter une occupation étrangère pour autant que la liberté de culte leur soit garantie. Sadducéens, c'est la partie des prêtres de Jérusalem qui suivent à la lettre la Torah, rejettent les traditions orales et nient l'immortalité de l'âme ainsi que les châtiments et les récompenses dans l'au-delà. Sionisme. C'est le mouvement politique et religieux visant à la création et à la consolidation de l'État d'Israël. Sion est une montagne de Jérusalem et par extension le nom donné à Israël. Zélote ou Kinin, qui signifie les zélés, Ils sont violemment opposés aux Romains et réclamaient l'observance rigoureuse des prescriptions.
Le christianisme. Deuxième grande religion monothéiste apparue au 1er siècle de notre ère, le christianisme basé sur la révélation christique devient la religion officielle de l'Empire romain avant de structurer la société médiévale et de dominer la pensée européenne. Son originalité est de s'adresser non seulement à un public choisi de docteurs de la loi mosaïque et de personnes influentes de la société, mais également à l'ensemble de la population. Véritable révolution, le christianisme ouvre les portes du paradis à tous ceux qui avaient la foi, sans distinction de classe sociale ou d'ethnie. Refusant le culte de l'empereur divinisé, il prône le triomphe de la piété et se résume à deux points essentiels qui sont l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Dans le dispositif chrétien, il convient de se consacrer aux tâches du salut en s'investissant aussi dans la réalisation du monde. Le christianisme des premiers siècles est marqué par un extraordinaire foisonnement intellectuel, riche de débats, en particulier sur la nature de Dieu. Les textes sacrés du christianisme. Marquant la rupture avec l'Ancien Testament de la culture hébraïque, le Nouveau Testament a presque entièrement été écrit en grec. Les textes qui le composent ont été rédigés au cours des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. Ces livres composent le canon du christianisme, d'autres évangiles et épîtres étant en effet considérés comme apocryphes. Au 4e siècle, saint Jérôme traduisit la Bible en latin. Cette traduction, appelée la Vulgate, fut longtemps la seule traduction reconnue par l'Église. La Bible des chrétiens, le Nouveau Testament. Texte de référence du corpus chrétien, le Nouveau Testament contient les quatre évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, les Actes des apôtres écrits par Luc, les épîtres de Paul au nombre de 14 et l'Apocalypse, la mise à nu ou révélation, du grec Apocalypsis, que Dieu fit à saint Jean dans l'île de Patmos et dont les visions annoncent la fin des temps. Les quatre évangiles. Reconnus par l'Église vers 450, les quatre évangiles relatant les faits et gestes de Jésus-Christ restent toutefois fragmentaires et sont parfois contradictoires, notamment sur le début de la vie du Christ. Marc et Matthieu font ainsi de Nazareth la patrie de Jésus, quand Luc parle de Bethléem en Judée. Pour sa date de naissance, on retient la version de Matthieu qui situe la nativité en 6 ou 7 avant Jésus-Christ. Les paroles de Jésus et le récit de ses actes commencent à circuler 30 ou 40 ans après sa mort, soit environ vers l'an 70 de notre ère. Les trois évangiles de Matthieu, Marc et Luc sont dits synoptiques car ils peuvent être disposés côte à côte sur une même page. Ils racontent l'histoire de Jésus d'un point de vue semblable, souvent en utilisant les mêmes histoires et les mêmes mots. L'explication des similitudes et des différences entre ces trois textes est un domaine privilégié de l'exégèse du Nouveau Testament. L'évangile de Marc serait le plus ancien. Composé vers l'an 40 en vue de la prédication en Égypte, il consigne quelques événements de la vie de Jésus comme le récit de la Passion, de la Résurrection et la description du triomphe de Jésus sur Satan. C'est un évangile messianique car sa finalité est de faire savoir que Jésus est Fils de Dieu. La tradition faisant de lui le disciple de Pierre, Marc n'est pas cité parmi les apôtres. L'évangile de Matthieu décrit surtout les événements de la Passion et de la Résurrection et montre que Jésus est le Messie annoncé par les Écritures. Le recueil primitif des Logia, les Dits ou les Paroles de Jésus, s'adresse aux croyants venus du judaïsme. Matthieu, qui exerçait à la fin de sa vie la charge de receveur d'impôts pour les Romains, l'aurait rédigé avant de quitter la Palestine, approximativement entre 7 et 12 ans après la mort de Jésus. L'évangile de Luc insiste sur l'universalité du message de Jésus. Il décrit la destruction de Jérusalem en 70 comme un fait accompli et connu vers 80. D'origine grecque, Luc l'aurait rédigé pour les Grecs à Alexandrie durant les dernières années de sa vie. C'est un médecin originaire d'Antioche, converti par saint Paul. Il le suivit dans la plupart de ses voyages. L'évangile de Jean, considéré comme plus spirituel et poétique que les précédents, a été rédigé à Éphèse, en grec, vers la fin du 1er siècle. Né en Galilée, Jean a suivi Jésus jusqu'au calvaire, dont il retrace les scènes douloureuses avec plus de détails que les autres écrivains sacrés. Il est arrêté et relégué dans l'île de Patmos, où il compose à la suite de visions prophétiques son Apocalypse. Il a également laissé trois épîtres, écrites pour contrer les hérésies concernant la divinité du Christ et mettre en garde contre les faux docteurs. Les Actes des apôtres. écrit pendant les premiers temps du christianisme, les Actes des apôtres constituent le cinquième livre du Nouveau Testament. Rédigé par Luc, il démarre à la Pentecôte et relate les débuts de l'Église primitive. Les épîtres de Paul. Paul de Tarse, ou saint Paul, se revendique comme l'un des principaux disciples de Jésus-Christ, qui lui serait apparu et l'aurait converti quelques années après sa mort. Il eut un rôle de première importance dans le développement et la diffusion du christianisme primitif, au point que certains théologiens, estimant que Paul donne un enseignement différent de celui de Jésus de Nazareth, le considèrent comme le fondateur du christianisme. L'Apocalypse. Dernière partie du Nouveau Testament, écrite à la fin du 1er siècle dans une forme très symbolique et mystérieuse, l'Apocalypse décrit le triomphe final du Christ après la venue de l'Antéchrist et prédit le jugement de Dieu et son triomphe sur les forces du mal. Attribuée à saint Jean, elle a donné lieu à plusieurs interprétations comme celle de la persécution des chrétiens par l'Empire romain, symbolisant le mal dont Dieu triomphera. Les principaux apôtres. On nomme apôtres du grec apostolos, qui signifie envoyé, les 12 disciples choisis par Jésus-Christ, qui l'accompagnaient de son vivant et ont témoigné de sa résurrection. Ce sont les prédicateurs de l'Évangile et les fondateurs de l'Église, et ils se réunirent régulièrement au Cénacle, la salle du premier étage, après la mort du Christ. Sous la direction de Pierre, ils formeront le collège apostolique auquel Jésus a confié le gouvernement de l'Église. Leur identité, qui varie selon les versions, reste sujette à caution. En voici trois parmi les principaux.
N'oubliez pas la vie de Jésus. Jésus, pour les chrétiens, est avant tout le Messie rédempteur, Messia, l'envoyé, incarné parmi les hommes. Il serait né à Bethléem, bourgade de Galilée, sous le règne d'Hérode le Grand, quelques années avant le début de l'ère chrétienne. Son père adoptif, Joseph, était charpentier à Nazareth. Sa mère est Marie, en hébreu Myriam. Depuis le IVe siècle, la tradition l'a toujours dite vierge, mais rien dans le Nouveau Testament ne le confirme explicitement. D'autres noms et qualificatifs sont attribués à Jésus. Yeshua, qui signifie « Dieu sauve », et dont l'hellénisation a donné Yézou, ou Christ, qualificatif signifiant « oint ».
Pierre. Le roc fondateur. Jésus impose ce nom à Simon Barjona, lui signifiant qu'il serait le roc, en grec pétros, sur lequel il bâtirait son église. Pierre apparaît dans les évangiles comme fondateur de l'église de Rome et occupe la première place parmi les apôtres. « Tu seras pêcheur d'hommes », lui dit le Christ. Dans ses deux épîtres adressées aux chrétiens d'Asie mineure, il expose les raisons de sa vocation et rappelle contre les faux docteurs les grands principes de la doctrine chrétienne. Il est mort en 64. Paul, l'apôtre des gentils. Sa philosophie est résumée dans Épître aux Corinthiens, où il est dit que le Christ est à l'image de Dieu. Avant de devenir l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, saint Paul, sous le nom de Saül, fut au nombre des persécuteurs du Christ. Terrassé par la révélation de la foi chrétienne sur le chemin de Damas, il ne songe plus qu'à faire connaître la vérité. L'Asie mineure, la Grèce, la Macédoine reçoivent tour à tour ses paroles. Il sera décapité sur la Via Ostia à Rome en 67. Jacques le Mineur. Il est appelé le frère de Jésus. Pendant longtemps, on a cru que Jésus eut des frères et des sœurs et était issu d'une famille nombreuse dont le nom le plus important était celui de Jacques. Mais la Bible utilise en fait « frère » dans le sens large de cousin ou de parent proche. Fils d'Alphée, il est dit le mineur pour le différencier de Jacques le majeur, le chef de file de l'église de Jérusalem. Selon l'historien Flavius Joseph, il aurait fini lapidé à Jérusalem en 62.
Un peu de technique. Les mots du christianisme. Anachorète. Ce sont les premiers ermites chrétiens vivant en des lieux écartés. Anticléricalisme. C'est la réaction contre l'influence jugée excessive du clergé dans la société. Ascétisme. C'est le comportement religieux impliquant des privations et des contraintes corporelles ou morales. Catéchèse. C'est la somme de vérité que le croyant doit acquérir pour accéder au salut. Le catéchisme, qui est l'instruction religieuse, est un moyen d'accéder à ces vérités. Catéchumène, c'est la personne qui se prépare à recevoir le baptême. Clergé, il se divise en deux catégories, le clergé régulier, dont les membres vivent en communauté selon une règle, et le clergé séculier, dont les membres vivent quotidiennement au contact des fidèles. Concile. C'est l'assemblée d'évêques prenant des décisions en matière religieuse. Le concile œcuménique désigne la convocation de tous les évêques de l'Église catholique par le pape. Concordat. C'est le traité qui définit officiellement la place de l'Église catholique dans un État. Déisme. C'est la croyance en une divinité, sans référence à une religion en particulier. Dogme. Ce sont certains points particuliers d'une doctrine qui réclament une adhésion irrévocable de foi de la part des fidèles. Le mystère de l'incarnation, par exemple. Le credo rassemble les principaux dogmes de l'Église chrétienne. Droit canon. C'est l'ensemble de règles qui déterminent l'organisation et le fonctionnement de l'Église catholique. Église. Lorsqu'elle désigne l'ensemble des chrétiens, elle s'écrit toujours avec une majuscule. Épiscopat. C'est l'ensemble des évêques et des archevêques d'un pays. Érémitisme. C'est l'attitude des premiers ermites qui se réfugient dans le désert pour méditer. Eucharistie. C'est le renouvellement du sacrifice du Christ sous la forme du pain et du vin. Grâce. Elle est accordée par Dieu aux hommes pour accéder au salut. Hérésie. Ce sont les points de la doctrine qui s'opposent aux dogmes de la religion. Holocauste. C'est le sacrifice au cours duquel la victime est consumée par le feu. Liturgie. Ce sont les cérémonies et prières officielles liées à un culte. Œcuménisme. C'est le mouvement fait pour rapprocher les diverses églises chrétiennes. Paganisme. Il désigne les religions non monothéistes, y compris les polythéismes antiques. Pape. C'est le successeur de Saint-Pierre. Il est élu par les cardinaux. Parousie, du grec parousia, qui signifie « entrée solennelle d'un souverain dans la cité ». Pour les chrétiens, c'est le retour du Christ à la fin des temps, venu juger les vivants et les morts. Passion, c'est la souffrance et mort du Christ sur la croix. Également, la partie des évangiles relatant cet épisode. Patriarche, c'est le titre porté dans la religion orthodoxe par les métropolites de quelques grandes villes, comme le patriarche de Constantinople. Pontificat, c'est la dignité du souverain pontife et durée pendant laquelle un pape exerce ses fonctions. Primat, c'est le titre destiné au titulaire du siège épiscopal le plus ancien ou le plus important d'une région. L'archevêque de Lyon est ainsi appelé le primat des Gaules. Rédemption, c'est le rachat des péchés des hommes par la mort du Christ sur la croix. Sacrement. C'est l'acte par lequel Dieu accorde sa grâce. Secte. C'est le groupe de fidèles qui se sont détachés d'une communauté religieuse. Sermon. Il est prononcé au cours d'un culte. Il s'agit d'un discours religieux, appelé aussi homélie. Synode. Synonyme consistoire. Ce sont les ecclésiastiques convoqués pour délibérer des questions religieuses. Le Saint-Synode est l'organe suprême de direction de l'Église orthodoxe de Russie.